Chapitre 15, où l'on verra la plus grande preuve de courage que Don Quichotte ait jamais faite. Il faut savoir qu'au moment où notre chevalier appela Sancho, celui-ci venait d'acheter au berger une demi-douzaine de fromages tout frais. Pressé par les cris de son maître, ne sachant comment emporter ses fromages, il les mit précipitamment dans le casque du héros et se hâta d'arriver. « Ami, lui dit Don Quichotte, donne-moi mon casque. » Ou je ne me connais pas en aventure, ou celle qui se présente exige que je sois bien armée. » À ces mots, le gentilhomme, en manteau vert, promena ses yeux le long du chemin et ne découvrit autre chose que le grand chariot couvert, surmonté de banderoles, ce qui lui fit penser d'abord que c'était de l'argent pour le trésor royal. Il le dit au chevalier. Mais celui-ci, qu'on ne dépersuadait pas aisément de ce qu'il croyait une fois, lui répondit qu'il savait bien à quoi s'en tenir. Il avait des ennemis visibles ou invisibles, toujours prêts à l'attaquer sous toutes sortes de formes. Et brûlant d'être déjà romain, il arrache son casque à Sancho, le met promptement sur sa tête, sans prendre garde à ce qu'il contenait, et s'affermissant sur ses étriers, il se prépare au combat. L'extrême chaleur du cerveau de Don Quichotte ne tarda pas à fondre les fromages, qui commencèrent à couler en petits laits le long du front, du nez, des joues de notre chevalier surpris. « Qu'est ceci ? » dit-il. « Mon ami Sancho, le sommet de ma tête semble se ramollir. Ma cervelle devient de l'eau. Jamais pareille sueur ne m'inonda si complètement. » « Oui, je suis en vérité. Et ce n'est pourtant pas de terreur. Il faut que ce soit le présage d'une épouvantable aventure. Donne-moi de quoi m'essuyer, Sancho. Mes yeux en sont aveuglés. » L'écuyer, sans dire un mot, lui donna promptement un mouchoir, priant Dieu tout bas que son maître ne s'aperçût pas de la vérité. Mais notre héros ôte son casque, et, tout étonné de voir dans le fond quelque chose qui ressemblait à du lait caillé, il en approche ses narines. « Par les beaux yeux de Dulcinée, s'écrie-t-il, mon étourdi, mon traître d'écuyer a rempli mon casque de fromage. »« Monsieur, répond Sancho d'un air naïf, ah, vraiment, vous me connaissez bien. » D'imaginer que j'irai prendre votre casque pour en faire un pot à fromage. Non, non, cela ne me ressemble point, et tout ce que j'en puis conclure, c'est que j'ai sûrement aussi des enchanteurs qui me poursuivent, comme faisant portion d'un chevalier errant. Ces coquins-là ont imaginé cette malice, afin que votre seigneurie se mît en colère contre moi et me frotta les épaules. Mais ils seront attrapés parce que mon bon maître réfléchira que je n'avais point avec moi de fromage et que si j'en avais eu, ce ne serait certainement pas dans un casque mais bien dans mon estomac que je les aurais mis. » Don Quichotte, sans répondre, s'essuie le visage et la tête, nettoie son casque, le remet ensuite, baisse sa visière et, serrant sa lance, « Qu'ils viennent, s'écria-t-il, je les attends, je les défie. Je me sens capable à présent de vaincre Satan lui-même. » Le gentilhomme, toujours plus surpris, écoutait, regardait tout, et la voiture aux banderoles arrivait. Elle n'était conduite que par deux hommes, dont l'un était sur les mules, l'autre sur le derrière du chariot. Don Quichotte marche vers eux. « Frère, dit-il, où allez-vous ? Quel est ce char ? Que contient-il ? Que signifient ces banderoles ? Monsieur, répondit le conducteur, cette voiture est à moi. Elle contient deux grandes cages où sont deux lions d'Afrique que le gouverneur d'Oran envoie à sa majesté. Les banderoles, où vous voyez les armes du roi, vous apprennent que le présent est pour lui. Sont-ils un peu forts, ces lions ? Si forts que jamais il n'en vint de pareil en Espagne. J'en ai déjà passé plusieurs, mais voici les plus beaux que j'ai vus. Le lion est dans cette cage, la lionne dans celle-là. Ils n'ont pas encore mangé d'aujourd'hui et commencent à sentir la faim. Je prie votre seigneurie de ne pas nous retenir davantage. « J'entends, » reprit Don Quichotte avec un sourire de dédain. « Qu'est-ce à dire que l'on m'en dépêche de petits lions ? Ah ah, des lionceaux à moi ! À moi, des lionceaux, vraiment ! Ces messieurs sauront tout à l'heure ce que je sais faire des lionceaux. Mon ami, donnez-vous la peine de descendre, ouvrez ces cages et laissez-moi ces pauvres bêtes. Je serai bien aise d'apprendre aux enchanteurs qui me les adressent ce que c'est que Don Quichotte de la Manche. » Tandis que le conducteur, pétrifié, regardait en silence notre héros, et que Don Diego de Miranda le contemplait avec le même étonnement, Sancho s'approche de ce gentilhomme, les mains jointes, les larmes aux yeux. « Mon bon seigneur, lui dit-il, rien n'est si sûr que ces lions vont nous manger si vous n'empêchez pas mon maître de prendre dispute avec eux. Se tournant alors vers Don Quichotte, qui pressait le conducteur d'ouvrir les cages, « Seigneur chevalier, dit Don Diègue, ai-je besoin de vous rappeler que la véritable valeur s'accorde toujours avec la prudence? Ce n'est point pour vous attaquer que ces lions ont passé la mer. Ils s'en vont bonnement à la cour se faire présenter à sa majesté. « Seigneur gentilhomme, répondit Don Quichotte, vous vous entendez à merveille à la chasse, au gouvernement de votre famille. Moi, je m'entends à la chevalerie. Chacun son affaire et tout ira bien. Je sais beaucoup mieux que je n'ai l'air de le savoir si ces lions ont quitté l'Afrique pour m'attaquer ou pour ne pas m'attaquer. Je vais l'éprouver à l'instant. Et toi, coquin de conducteur, je jure Dieu que si tu n'ouvres pas ces cages tout à l'heure, cette lance que tu vois va te clouer à ta charrette. » Le conducteur, effrayé de ces paroles et de l'air dont elles étaient prononcées, supplia notre héros de dételer ses mules et de sauver ses propres bêtes qui faisaient seules toute sa fortune. « Homme de peu de foi, s'écria Don Quichotte, ma pitié t'accorde ce que tu demandes. Dételle tes mules et fuis. Dans un moment, tu verras toi-même l'inutilité de tes précautions. » Le conducteur descendit aussitôt, se hâta de dételer, et regarda encore Don Diègue et Sancho. « Messieurs, dit-il à haute voix, je vous prends à témoin que c'est par force que je vais rendre libres ces animaux. Je vous exhorte à vous mettre en sûreté avant que j'ouvre les cages. Quant à moi, je ne risque rien, parce que les lions me connaissent. » Don Diègue voulut encore essayer de parler à Don Quichotte. Il ne fut pas écouté. Sancho, les larmes aux yeux, vint le prier, le conjurer de renoncer à cette aventure. « Monsieur, monsieur, disait-il avec un accent lamentable, prenez garde qu'il n'y a rien ici qui ressemble à de l'enchantement. J'ai vu à travers les barreaux une seule patte de ces messieurs. Je vous réponds sur ma foi que d'après cette patte-là, le lion doit être plus gros qu'une montagne. » « Sans doute, répondit Don Quichotte, les lions sont toujours gros quand on a peur. Retire-toi, mon pauvre Sancho. Si je péris dans ce combat, tu sais ce que tu dois dire à Dulcinée. Depuis longtemps entre nous deux, tout est réglé sur ce point. Allons, pars et finissons. » Don Diègue, voyant enfin que rien ne pouvait ébranler la résolution de notre chevalier, prit le parti de piquer sa jument et de s'éloigner dans la campagne. Le charretier le suivit sur ses mules, ainsi que le triste Sancho. Au milieu de ses lamentations, il n'en pressait pas moins son âne pour s'éloigner le plus qu'il pouvait. Dès que le conducteur les vit assez loin, il voulut tenter de nouveau de persuader Don Quichotte. Mais celui-ci, d'une voix fière, lui réitéra ses ordres. Et tandis que le conducteur se préparait à obéir, notre héros songeait en lui-même s'il ne ferait pas mieux de combattre à pied. La crainte que Rocinante ne s'effrayât de la présence des lions lui fit adopter ce dernier parti. Aussitôt, il se jette à terre, se débarrasse de sa lance, de son écu, tire son épée. Et se recommandant à Dieu et à Dulcinée, tranquille, l'œil assuré, il vient d'un pas ferme et grave se placer devant le chariot. Le conducteur, pressé de plus en plus par notre héros, qui brûlait d'en venir aux mains, se décide enfin à le satisfaire. Il ouvre en plein la cage du lion et découvre tout à coup son énorme taille, sa crinière horrible, ses yeux farouches et sanglants. Don Quichotte le considère sans effroi. Le lion se retourne, se coule, étend lentement ses membres, allonge ses muscles, ses griffes, ouvre sa gueule profonde et fait un long bâillement. Ensuite, avec une langue qui sort de deux pieds par-delà ses dents, il essuie, nettoie son mufle, passe et repasse cette langue sur ses joues, sur ses paupières, se lève, allonge sa tête hors de la cage, et promène à droite et à gauche deux prunelles qui ressemblaient à deux immenses brasiers. Notre chevalier, attentif, suivait tous ses mouvements. Il n'était ému que du vif désir de commencer le combat. Mais le généreux lion, qui se souciait peu de chevalerie, de bravade, d'exploits glorieux, après avoir regardé de toutes parts, se retourne de la tête à la queue, présente son derrière au héros et se couche au fond de la cage. Don Quichotte voulut que le conducteur l'irritât à coups de bâton et le forçât de s'élancer. « Non pas, s'il vous plaît, reprit le pauvre homme, car la première chose qu'il ferait serait de me mettre en morceaux. Mais en vérité, seigneur chevalier, vous devriez être plus que content. Vous avez poussé la valeur jusqu'au dernier point où elle peut atteindre. Pourquoi vouloir tenter deux fois la fortune? La victoire est à vous, seigneur. Le lion a fui. Donc il est vaincu. Vous avez raison, reprit Don Quichotte. Ami, fermez cette cage et donnez-moi une attestation en bonne forme de ce que vous m'avez vu faire. Je suis quitte envers mon devoir. Meurs, meurs les enchanteurs, et vive la chevalerie. Le conducteur ne demandait pas mieux que d'obéir à ses derniers ordres. Il referma promptement la cage, tandis que notre héros, mettant son mouchoir au bout de sa lance, fit des signes et cria de loin à Don Diègue et à Sancho de revenir promptement. Ceux-ci, tout en fuyant, retournaient à chaque pas la tête. Ils aperçurent le mouchoir, et Sancho dit le premier. « Que je meure si mon maître n'a pas vaincu ces terribles bêtes. Le voilà qui nous appelle. » Don Diègue et le charretier s'arrêtèrent à ces paroles, reconnurent la voix de Don Quichotte et retournèrent à lui. À peine arrivé, « Mon ami, dit le héros au charretier, vous pouvez rateler vos mules et poursuivre votre route. Et toi, Sancho, donne 2 écus d'or à ces messieurs pour le temps que je leur ai fait perdre. » « De tout mon cœur, reprit l'écuyer. Mais que sont devenus les lions? Sont-ils morts? Sont-ils vivants? » Le conducteur se mit alors à raconter en détail, et non sans de grandes louanges de Don Quichotte, tout ce qui s'était passé. « Eh bien, que t'en semble, ami Sancho ? » s'écria Don Quichotte, charmé. « Penses-tu que le vrai courage soit toujours victime des enchanteurs ? Va, mon fils, je sais trop bien qu'ils ont quelque pouvoir sur la fortune, mais ils n'en ont pas sur la vertu. » Sancho donna les écus d'or. Le conducteur et le charretier vinrent baiser la main du héros, le remercièrent de ses dons et lui promirent de raconter au roi l'action dont ils avaient été témoins. « Messieurs, répondit Don Quichotte, si sa majesté vous demande quel est celui qui osa mettre à fin cette aventure, je vous serai obligé de lui dire que c'est le chevalier des lions. Je suis résolu de m'appeler ainsi désormais et de quitter le surnom de la triste figure que j'avais porté jusqu'à présent. » Ce bon Don Diègue, de plus en plus étonné, ne disait pas une parole et réfléchissait en lui-même sur l'opinion qu'il devait avoir de la sagesse ou de la folie de Don Quichotte. « Seigneur Diègue, dit Don Quichotte, je crois être certain que vous pensez à moi, et je vous passe de tout mon cœur de me regarder comme un fou. Mais raisonnons un peu, s'il vous plaît. On estime l'adroit chevalier, qui, dans une grande place, en présence de la cour, perce de sa lance un taureau furieux. On applaudit celui qui, pour plaire à la beauté qu'il aime, remporte l'honneur d'un tournoi. Je suis loin de mépriser cette gloire, mais il en est une plus belle, parce qu'elle est plus utile. C'est celle du chevalier errant, qui va parcourant les déserts, les solitudes, les montagnes, affrontant, cherchant les périls, uniquement pour se défendre, pour soulager quelques infortunés, pour faire de bonnes actions qui valent mieux que des actions brillantes. « Je ne puis m'empêcher, reprit Don Diègue, d'applaudir à tout ce que vous dites. La raison elle-même semble parler par votre bouche. » Et si jamais les lois si pures de la chevalerie errante étaient perdues sur la terre, on les retrouverait dans votre cœur. Mais je vous demande d'allonger le pas, afin d'arriver à ma maison où j'espère que vous voudrez bien vous délasser quelques jours. » Notre héros le remercia poliment. Et pressant le paresseux Rocinante, ils arrivèrent vers les 2 heures chez Don Diègue, que Don Quichotte appelait le chevalier du manteau vert.